Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. La Tribune, Le Droit et Le Journal de Montréal. Au programme, gérer la santé en s'appuyant sur la science, les jeunes, leur cœur et nous, économisez-vous vraiment chez Costco et Ukraine, aidons les enfants et leurs familles. Bonne écoute.
Gérer la santé en s'appuyant sur la science. Une chronique de Régent Hébert parue le 4 juillet 2022 dans La Tribune. Que diriez-vous d'un médecin qui pratique sans se soucier de la science? D'un chirurgien ou d'un radiologiste qui prend des décisions sans se baser sur des données et des preuves scientifiques? Ce serait bien sûr inacceptable, voire dangereux. Pourtant, les réformes du réseau de la santé et des services sociaux ont été menées au cours des deux dernières décennies sans s'appuyer sur des bases rigoureuses établies par la recherche sur les services de santé. Rien d'étonnant alors de constater l'échec de ces réformes et ses conséquences néfastes sur l'accès à des services de qualité. La médecine s'appuie maintenant de plus en plus sur des données probantes obtenu à la suite de nombreuses études scientifiques menées de façon rigoureuse à travers le monde. D'abord, avant d'être financées, ces études font l'objet d'une évaluation indépendante par les pairs, les collègues chercheurs experts du même domaine, afin de s'assurer de la rigueur du projet. Une évaluation éthique minutieuse, voire parfois tatillonne, assure la sécurité et la probité de l'étude projetée avant de recruter des participants. L'expérimentation est ensuite menée en ayant soin d'éviter tout biais pouvant fausser les résultats. Puis, une nouvelle évaluation par les pairs survient lors de la publication des résultats. Comme la preuve scientifique ne peut s'appuyer sur une seule étude concluante, l'expérimentation doit être répétée par d'autres chercheurs sur d'autres populations pour confirmer les conclusions. Une analyse de plusieurs études, une méta-analyse ou une revue systématique permet de combiner les différentes expérimentations pour obtenir une preuve scientifique solide. Finalement, des comités d'experts traduisent ces preuves en recommandations ou guides de pratique clinique. C'est ce processus qui est à l'origine de l'utilisation des tests diagnostiques ou des traitements par le médecin. C'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, ou la médecine basée sur des preuves. Il existe tout un champ de recherche aussi rigoureux et systématique pour étudier l'organisation et la gestion des services de santé. Comme on s'adresse souvent à des populations et des systèmes, les méthodes de recherche sont différentes, mais la même rigueur y est appliquée, de la conception de l'étude jusqu'à sa publication et à l'examen combiné des expérimentations semblables pour obtenir une preuve solide. Cette science de l'administration de la santé est enseignée dans les universités. On y mène des travaux, financés par les organismes nationaux et internationaux de subvention, qui sont publiés dans des revues scientifiques dédiées. Les gestionnaires et dirigeants de notre réseau ont souvent été formés dans les programmes de ces universités. On y enseigne comment appuyer ses décisions et orientations sur des données probantes. C'est ce qu'on appelle l'Evidence-Informed Decision Making, ou les décisions éclairées par les données probantes. Comme le médecin, tout gestionnaire ou dirigeant devrait toujours baser ses décisions sur des preuves scientifiques. Les résultats d'une étude sur un médicament ou un test diagnostique peuvent être facilement transposés et appliqués à d'autres populations. Il n'en va pas de même pour la recherche sur les services de santé, où le contexte et la population visée peuvent être déterminants sur les résultats d'une intervention. C'est pourquoi il faut être plus prudent avant d'appliquer une intervention, pourtant efficace à une autre population dans un autre contexte. C'est ce qui explique qu'on parle davantage de décisions éclairées par les données probantes et non basées sur des données probantes comme en médecine. Il est désolant de constater que les réformes majeures des 20 dernières années n'ont pas été éclairées par des données probantes. Auparavant, une réforme était souvent précédée par un examen rigoureux au moyen d'une commission d'enquête ou d'un groupe de travail. Ainsi, les recommandations des commissions Castonguay, Rochon et Claire ont toutes été appuyées sur un examen rigoureux et exhaustif de la littérature scientifique pertinente. Il n'en fut pas de même lors des réformes Couillard en 2003 et Barrette en 2015. Des réformes majeures, concoctées par des ministres médecins qui n'ont pas appliqué la même rigueur scientifique à transformer le système de santé que celle qu'ils ont apprise et appliquée pour traiter les malades. La commission parlementaire chargée d'examiner la réforme Barrette a pourtant reçu des témoignages de plusieurs scientifiques venus démontrer que cette réforme n'aurait pas les impacts anticipés à la lumière des connaissances scientifiques. On les a ignorés avec le résultat que l'on connaît. On a préféré se baser sur des idées alléchantes, mais non éprouvées. Dans ce domaine, le cimetière scientifique des bonnes idées est vaste et, comme chercheur en ce domaine, j'y ai souvent contribué. Un exemple. Je souhaitais démontrer que des visites préventives par une infirmière formée auprès de personnes âgées à risque pouvaient permettre de détecter et d'intervenir précocement pour prévenir la perte d'autonomie. L'expérimentation que nous avons menée n'a pas démontré d'impact significatif d'un tel programme. Ce résultat a par la suite été reproduit dans d'autres pays avec les mêmes résultats. Ce qui avait l'apparence d'une bonne stratégie s'est donc avéré un mirage. Pourtant, ce genre de programme continue malgré tout d'être implanté dans plusieurs régions du monde avec des investissements en ressources humaines et financières considérables. On ne retrouve pas au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et dans les établissements de santé une culture de décision éclairée par des données probantes. Et pourtant, dans notre système public universel, on en a des données, mais pour toutes sortes de raisons, on ne les utilise pas. Il n'y a plus d'équipe solide dédiée à l'évaluation et au développement au ministère et dans les établissements. Comment une entreprise avec un budget de plusieurs dizaines de milliards de dollars peut-elle se développer et améliorer ses services sans un secteur de recherche et développement? La R&D, recherche et développement, comme on l'appelle dans le secteur privé, est une condition essentielle à la survie d'une organisation et à son adaptation constante aux besoins des clients ou des usagers. Dans les établissements, on applique bien souvent des méthodes et programmes à la mode, prônés par des consultants rémunérés grassement. La fameuse méthode Lean ou Toyota en est un bon exemple. Bien qu'implantée largement dans le réseau à grands frais, les preuves scientifiques de son efficacité en santé sont plutôt faibles. Lorsque de nouveaux services, programmes ou politiques sont implantés, il n'y a aucun souci d'évaluer leur effet autrement qu'en utilisant quelques indicateurs, liés beaucoup plus au processus. Exemple, nombre de services offerts, temps d'attente, qu'aux résultats. Exemple, nombre de vies sauvées, amélioration de l'état de santé, satisfaction des patients. C'est d'ailleurs le jugement porté par le vérificateur général et le commissaire à la santé et au bien-être, CSBE, lors de leur récent rapport. Les quelques études scientifiques sur la réforme de 2003 et certains programmes gouvernementaux, groupes de médecine de famille, guichets d'accès, par exemple, sont plutôt réalisés par des chercheurs universitaires avec un financement indépendant. Les effets désastreux des dernières réformes devrait nous alerter quant à la nécessité d'appuyer des décisions de gestion ou de réforme sur des données probantes. Toute nouvelle politique, programme ou service devrait obligatoirement faire l'objet d'une évaluation rigoureuse quant à sa mise en œuvre et à son impact sur la santé de la population. Nous ne pouvons plus diriger et gérer un système de santé sur la base de lubies colportées par des gourous mal avisés. La science de l'administration des services de santé existe. Il faut en profiter pour utiliser judicieusement les ressources limitées de l'État au plus grand bénéfice de la population. C'était « Gérer la santé en s'appuyant sur la science », une chronique de Régent Hébert parue le 4 juillet 2022 dans La Tribune. Les jeunes, leur cœur et nous. Un éditorial de Marie-Claude Lortie paru le 10 décembre 2022 dans Le Droit. La jeunesse de 2022 a fait l'objet récemment de trois nouvelles aussi différentes que révélatrices. D'abord, on a appris par la publication d'une étude de l'Université de Sherbrooke que nos jeunes n'étaient pas en forme comme les générations qui les ont précédées, puis que le gouvernement du Québec préparait la mise en place d'une nouvelle taxe sur le vapotage. Pourquoi? Parce que cette habitude qui a remplacé la cigarette est un fléau pour leurs poumons et leur cerveau. Au Québec, un adolescent sur cinq vapote et pour le tiers de ces vapoteurs, c'est une habitude au quotidien. Et finalement, on apprenait vendredi par un article du Quotidien que leurs habitudes vestimentaires atteignaient un laisser-aller surprenant. De plus en plus, ils vont à l'école en pyjama. Certaines directions scolaires, qui s'inquiètent aussi des taux d'absentéisme, ont trouvé nécessaire d'en parler aux parents. Dans certains cas, on les avertit que les jeunes devront se changer en arrivant en classe, si c'est le cas, quitte à attendre que les 10 parents viennent leur porter de quoi se rhabiller. Bref, le portrait robot de l'ado de 2022 ressemblerait-il à quelqu'un qui a le souffle trop court pour sa jeunesse, en train de vapoter en pyjama en arrivant à l'école? Malheureusement, cette image n'étonnera pas beaucoup de parents. En tout cas, pas ceux qui ont vu leurs jeunes aller à l'école en restant dans leur lit pendant la pandémie, qui les ont vus vivre leurs amitiés, voir leurs premiers amours sur des écrans en plein confinement, qui les ont consolés quand leurs bals, leurs camps d'été, leurs activités sportives, culturelles, sociales, quand leurs vies ont été mises en suspens par les innombrables interdictions sanitaires de 2 années et demie de leur courte vie. Bien sûr, les constats qu'on fait aujourd'hui sur la santé des jeunes, notamment la chute de leur capacité cardio-respiratoire comparée à ce que c'était il y a 35 ans, trouvent leur source dans des changements de style de vie dont les racines sont beaucoup plus anciennes et profondes et complexes que la pandémie. Si les jeunes bougent moins, c'est parce que nos vies, à tous, ont été radicalement transformées par la révolution technologique et avant ça par l'arrivée de la voiture, l'urbanisation, l'industrialisation de tout, en commençant par l'alimentation. L'effort physique n'est plus obligatoire pour à peu près rien. La nourriture qu'on nous vend et qu'on vend aux jeunes, pas chère, trop sucrée, trop grasse, trop salée, trop dénaturée pour leur santé, est à la dérive, s'éloignant de plus en plus de ce qui est simplement bon pour nous. Et aujourd'hui, personne de moins de 30 ans ne se rappelle une vie sans Internet, personne de moins de 20 ans d'une vie sans téléphone intelligent. On ne devrait pas s'étonner que les jeunes aient le souffle court. Tous les ingrédients mènent à ça depuis des décennies et ils n'y sont pour rien. Et il y a eu, en plus, la pandémie. Et cette pandémie a fait des ravages. Tout a été touché. Les jeunes, comme leurs parents, ont eu le virus Ils ont été confinés, ils ont vu leurs activités physiques limitées et leur santé mentale a été très affectée. Une étude de l'Université d'Ottawa qui a fait le survol des études sur l'impact de la pandémie sur la santé mentale a montré que partout, tout le monde a été atteint et des chiffres autant de l'UNICEF que de Statistique Canada montrent que les jeunes ont été particulièrement touchés. Déjà en 2021, le réseau des pédiatres communautaires d'Ottawa affirmait craindre les séquelles chez les enfants et adolescents une fois que la pandémie sera chose du passé. Et une autre étude sur la santé publique de l'Université de Sherbrooke, publiée il y a quelques mois, a fourni de nouveaux chiffres. Actuellement, à partir de l'âge de 16 ans, au moins 50% des jeunes présentent des symptômes d'anxiété ou de dépression modérée à sévère. Et alors que le vapotage semble stabilisé, dit la recherche, la consommation d'alcool excessive, elle, est à la hausse. On n'arrêtera pas le progrès technologique qui rend nos jeunes branchés en tout temps, collés sur TikTok et les textos, écrits dans une langue qui n'est plus du français, de leurs amis. Et on ne pourra pas leur rendre les années perdues de la pandémie. Et on ne peut pas non plus ni décider de les obliger soudainement à jouer dehors ou à aller à l'école à pied parce que c'est mieux pour leur cœur et leurs poumons. Si on prend nous-mêmes la voiture pour acheter la moindre pinte de lait, ni s'étonner de les voir auto-médicamenter leur détresse, car on le fait souvent nous-mêmes. Si on veut qu'ils bougent et soient en santé, il faut se promettre de gérer les pandémies en pensant à eux pour vrai. Il faut construire, leur aménager des villes qui leur permettent de respirer, d'être actifs. Il faut leur inventer des milieux de travail, de vie, sains. Il faut protéger les terres agricoles qui leur fourniront de la bonne nourriture. Il faut repenser tous les éléments de nos modes de vie pour qu'ils soient bons pour eux. Les jeunes sont comme ils sont en faisant leurs choix, mais sur les voies que nous, leurs parents, nous leur traçons. S'ils vont à l'école en pyjama, sans souffle, en vapotant, c'est dans le miroir qu'il faut regarder. C'était « Les jeunes, leur cœur et nous », un éditorial de Marie-Claude Lortie, paru le 10 décembre 2022 dans Le Droit. Économisez-vous vraiment chez Costco? Une chronique de Marc Allard, parue le 9 décembre 2022 dans Le Droit. Après un an d'épicerie en gros format, mon abonnement arrive à échéance chez Costco et je me demande si je devrais l'annuler avant de me ruiner. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, je me suis abonné à l'ex Club Price pour alléger ma facture de bouffe. Avec la hausse des prix des aliments, je suis devenu un client réticent du Costco, résigné à zigonner trop longtemps pour trouver une place au fond du stationnement. Les économies me semblaient prometteuses. Un panier type d'une centaine d'articles du quotidien, épicerie, produits nettoyants et de pharmacie, etc., revient 12% moins cher au Costco que chez ses rivaux Walmart, Maxi et Super C, a montré une enquête de Protégez-vous. En proportion, la viande, le poisson, les fruits et les légumes, la boulangerie, les produits laitiers et une foule d'autres produits sont clairement moins chers que dans les rayons de mon supermarché local. Mais quand je pousse mon panier dans les allées du Costco, j'ai l'impression que mon cerveau est kidnappé par les bas prix. Je craque pour les pots de houmous et de yogourt siamois, les trios de paquets de viande froide, les sacs de carottes protubérants, les pavés de saumon géant. En théorie, je fais un bon marché chaque fois. Or, à voir l'ampleur de mes factures, je me demande si je n'achète pas beaucoup plus que j'en ai besoin et si, au final, ça ne me coûte pas plus cher que si je me contentais de faire mon épicerie dans le IGA de quartier. Mes soupçons sont peut-être fondés. Une étude publiée en 2018 dans la revue scientifique Journal of Marketing Research a montré que les gens qui font leurs courses dans les entrepôts comme Costco ont tendance à dépenser plus en nourriture, à s'y rendre plus souvent et à manger davantage que s'ils ne faisaient pas leur épicerie à cet endroit. On ne gagne pas de temps, on n'économise pas d'argent et on augmente notre consommation d'aliments non périssables et impulsifs, a résumé l'auteur principal de l'article, Kusum Ailawadhi, professeur à la prestigieuse université Dartmouth aux États-Unis. Co-signée entre autres par un chercheur de McGill, l'étude de Mme Ailawadhi repose sur plusieurs milliers de ménages qui ont accepté de scanner les codes-barres de chaque article d'épicerie qu'ils ramenaient à la maison. Selon l'étude, l'augmentation de la facture provient principalement des aliments stockables et impulsifs et provient à la fois des aliments santé et de la malbouffe. Certains d'entre vous penseront peut-être que ce constat ne s'applique pas à eux. Moi, faire des achats impulsifs, jamais. Ce serait peut-être sous-estimer le pouvoir de toutes ces stratégies que Costco met en place pour vous faire dépenser plus. Par exemple, la chaîne place délibérément des produits discrétionnaires comme les vêtements, les télévisions ou les articles de saison à l'avant de l'entrepôt. Les produits essentiels comme la viande et les fruits et légumes sont disposés au fond du magasin. Résultat, vous n'avez pas le choix de passer par l'allée des tentations avant de faire votre épicerie. Il y a aussi les échantillons gratuits. La plupart du temps, vous vous contentez peut-être d'engouffrer les mini-viennoiseries ou les noix salées qu'on vous propose, mais la règle non écrite de la réciprocité peut vous inciter à retourner la faveur à la personne qui vous a offert les petites bouchées en ramenant de la bouffe que vous n'aviez pas prévu acheter. Alors, devrais-je annuler mon abonnement chez Costco? J'aime que l'entreprise traite bien ses employés, offre des produits maison de qualité et n'investisse pas dans le décor de l'entrepôt pour maintenir de bas prix pour les clients. En même temps, je pense que j'achète pas mal plus au Costco que ce dont j'ai besoin et peut-être aussi que je gaspille plus de nourriture que je ne l'admets. Pour profiter des petits bas prix sans acheter outre mesure, je suppose qu'il faudrait que je me protège contre moi-même. Comment? Peut-être en faisant un budget et en me collant à ma liste d'épiceries, ou en fermant les yeux dans l'allée des tentations. C'était « Économisez-vous vraiment chez Costco ?» une chronique de Marc Allard, parue le 9 décembre 2022 dans Le Droit. Ukraine. Aidons les enfants et leurs familles. Un texte de Normand Lester, paru le 4 janvier 2023 dans le Journal de Montréal. Depuis le début de la guerre en février 2022, 452 enfants ukrainiens ont été tués et 876 blessés par des faits d'armes, selon le procureur général d'Ukraine. Et ces chiffres sont fragmentaires. Il est impossible de comptabiliser les pertes dans les territoires occupés par les Russes et dans les zones de combat. L'été passé, l'UNICEF estimait que plus de 5 enfants ukrainiens par jour en moyenne étaient tués ou blessés en Ukraine par la violence guerrière. Les choses ont depuis empiré, et l'évaluation ne comptait compte que des cas que l'ONU était en mesure de vérifier. Crimes contre les enfants. Depuis 10 mois, les enfants et les familles en Ukraine sont profondément traumatisés par la violence qui les entoure. Les infrastructures civiles dont ils dépendent sont la cible des Russes. Selon les estimations de l'ONU, une école sur 10 a été endommagée ou détruite. Les mères renoncent à y envoyer leurs enfants. Les frappes aériennes et d'artillerie russes ont complètement détruit 337 établissements d'enseignement et endommagé 3126 autres. Quelque 8500 civils ukrainiens ont été tués et plus de 11 000 blessés depuis le début de l'invasion russe. Dans les ruines de frappes aériennes, on continue de trouver des corps et dans les régions libérées, on recueille des preuves d'atrocités. Les autorités ukrainiennes ont jusqu'à présent enregistré plus de 45 000 crimes de guerre et identifié 216 soldats russes comme des criminels de guerre présumés, dont 17 ont été faits prisonniers et 12 condamnés. Le président ukrainien Zelensky a déclaré que la Russie avait déjà tiré quelque 5 000 missiles sur son pays. Ses armes frappent indifféremment combattants et civils. Les Russes visent les zones habitées, espérant amener la population à faire pression sur le gouvernement de Kiev pour qu'il accepte les dictats de Poutine. Violence russe. Le recours aux engins explosifs, obus, drones, roquettes, missiles, est responsable de la plupart des morts d'enfants. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, qui apporte son soutien aux enfants et à leurs familles à travers le monde, estime que la vie et le bien-être de 5,2 millions d'enfants ukrainiens sont menacés. La destruction de résidences familiales et d'infrastructures essentielles comme des installations de traitement de l'eau ont obligé des centaines de milliers de familles à fuir leur foyer. La quasi-totalité des enfants encore en Ukraine vit des événements extrêmement traumatisants qui risquent de les affecter psychologiquement pour le reste de leur vie. L'UNICEF ajoute que ceux qui ont fui les zones de combat courent un risque élevé d'être séparés de leur famille et d'être victimes de violences, de maltraitance, d'exploitation sexuelle et de traite des êtres humains. C'était Ukraine, aidons les enfants et leurs familles. Un texte de Normand Lester, paru le 4 janvier 2023 dans le Journal de Montréal.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.